Bienvenue sur Parlons des cancers du sang, une série de balados présentée par la Société de leucémie et lymphome du Canada. Cette série de balados est destinée à mettre en relation les personnes touchées par un cancer du sang à leur communauté grâce à des témoignages d'espoir, de guérison et de soutien. Je m'appelle Stéphanie Jarry et je serai l'hôte invitée pour cette série de balados sur les jeunes adultes et les cancers du sang. À l'aube de mes 25 ans, soit en octobre 2019, j'apprenais que j'étais atteinte d'un lymphome Hodgkinien de stade 2. Aujourd'hui, 2 années sont passées depuis mon traitement de chimiothérapie et je suis officiellement sur la voie de la rémission, tout comme notre invité d'aujourd'hui, Charles, 31 ans. Quelques semaines avant de fêter son 29e anniversaire, Charles a reçu un diagnostic de leucémie myéloïde aiguë. Cette découverte s'est faite par pur hasard à la suite de prises de sang pour vérifier des ganglions qui étaient légèrement enflés. 2 ans après cette épreuve et plusieurs nuits passées à l'hôpital, Charles a lancé un mini-album qui se nomme « Patient » sous le nom d'artiste Charlie Mortel. Ses compositions écrites à la suite du diagnostic partagent différents moments et émotions reliés à son expérience avec un cancer du sang. Bonjour Charles, merci infiniment d'avoir accepté d'être des nôtres aujourd'hui. Comment vas-tu aujourd'hui?
Bonjour Stéphanie, ça va super bien. Puis merci de me recevoir.
Oui, donc peux-tu un peu nous parler de toi, c'est-à-dire peut-être de commencer justement avec l'annonce de ton diagnostic? J'avais cru comprendre, ben, comme je viens tout juste de dire, que ça s'est fait vraiment de façon fortuite, là. T'avais les ganglions enflés, tu décides d'aller voir le médecin. Est-ce que tu peux nous en parler davantage?
Exact. Ben, tu sais, on entend souvent que quand on Google nos symptômes, ça nous dit tout le temps qu'on va avoir un cancer. Mais moi, c'est arrivé pour vrai, dans le sens que moi, je regardais sur Google pourquoi j'avais des ganglions enflés. À ce moment-là, je réalisais pas que j'avais des pétéchies, là, parce que mes plaquettes étaient basses, mais j'avais quelques petits symptômes que je remarquais et qui pouvaient être problématiques. Donc, dans le fond, j'ai demandé à voir un médecin qui, lui, m'a prescrit une prise de sang, qui était littéralement la première fois que je faisais une prise de sang dans ma vie. J'avais jamais vraiment eu de problème de santé. Donc, j'ai fait ma prise de sang et au moment où que j'ai fait ma prise de sang, ils m'ont appelé parce qu'eux autres, ils ont vu, dans le fond, dans mes globules blancs, que c'était certain que c'était une leucémie, c'était certain que c'était grave, puis c'était certain qu'il fallait agir maintenant. Donc, au moment où ils m'ont appelé, c'était vraiment en urgence, puis c'était vraiment... Ils m'ont annoncé que j'avais un cancer au téléphone, ils m'ont annoncé que je commençais la chimio le lendemain, et je devais me présenter à l'urgence de la Cité de la Santé. Enfin, moi, je suis de Laval, donc il fallait à la Cité de la Santé pour commencer mes traitements tout de suite, alors que j'avais jamais pensé que j'allais avoir un cancer, j'avais jamais rencontré d'oncologue.
Puis juste nous mettre un peu en contexte, tu avais 29 ans, puis étais-tu encore à l'école, tu travaillais ou...
Ouais, dans le fond, au moment où ils m'ont appelé, j'étais en train de travailler. En fait, j'avais 28 ans et j'allais avoir 29 ans, là. 28 ans, ils m'ont appelé pendant que j'étais en train de travailler, j'avais fini l'école dans le sens que j'avais déjà terminé mon école de 2-3 ans. Puis, je travaillais, dans le fond, en informatique. Puis, ils m'ont appelé. Puis, au moment où ils m'ont appelé, ils m'ont clairement dit que je travaillais plus, là, dans le sens que moi, c'était quand même assez grave comme problème qui faisait que moi, j'allais passer le prochain mois à l'hôpital en chimio. Puis, dès que je suis arrivé là-bas, ils m'ont signé un papier pour que je travaille pas pour la prochaine année, que c'était certain que moi, j'allais avoir au minimum un an sans travailler. Puis là, aujourd'hui, ça fait 2 ans et demi, puis j'ai jamais commencé à travailler encore. Je travaille pas.
Par choix ou par les traitements qui sont encore...
Dans le fond, quand on reçoit une greffe de moelle osseuse, ce qu'ils nous conseillent, c'est de passer 6 mois à 1 an sans travailler. Puis dans le fond, moi, ça fait un peu plus que 6 mois, là, mais j'en parle parce que j'ai eu une première greffe qui a pas fonctionné. Après ça, il y a eu un an d'attente. Il y a eu une deuxième greffe ensuite. Ça fait comme 2 ans et demi que je suis dans les traitements, puis c'est pas par choix, là, mais c'est par choix des médecins.
Oui, je comprends. Puis ça me fait penser. Parce que là, tu disais, ils t'ont tout dit ça par téléphone. Fait que là, sur le coup, toi, tu reçois ça comme nouvelle. Tu te sens comment? Mettons, t'y crois-tu? T'y crois-tu pas?
Moi, j'ai rien compris, là, dans le sens que, tu sais, je reçois un appel, puis ils me disent, on va te donner les résultats de ta prise de sang. Moi, dans ma tête, je sais pas trop ce qu'ils vont me dire. On me dit, tu sais, moi, ce que je m'attendais, c'est, t'as une petite infection quelque part, t'as quelque chose. Je savais même pas s'ils allaient le voir dans la prise de sang. C'est sûr que j'ai été vraiment surpris qu'ils me disent, tu sais, au début, ils me parlaient de leucémie. Moi, je savais pas vraiment c'était quoi. J'avais un doute que c'était un cancer, mais à quel point c'était grave. Tu sais, c'est plus tard, c'est plus le lendemain que là, ils, Ils voulaient valider c'était quel type de leucémie, savoir si c'était grave. Mais tu sais, moi, dans le fond, la deuxième journée, la première journée, j'ai eu mon diagnostic. La deuxième journée, on me donnait déjà un pronostic de 30 % de chances de survie dans les 5 ans qui allaient arriver. Donc, moi, c'était vraiment, j'ai vraiment pas été chanceux dans la leucémie que j'ai eue. Bon, c'est une des plus agressives.
Puis ben là, on est content de voir que ça va bien pour l'instant.
Ouais, pour l'instant, ça va bien. 2 ans et demi plus tard, je suis encore là.
Ah, c'est super. Fait que là, tu reçois ce pronostic-là, mais là, toi, tu. À quoi tu penses? Moi, je me souviens bien, là, moi, quand on m'a annoncé tout ça, on dirait que j'étais vraiment dans le néant. Puis je me suis un peu dissociée, tu sais, de l'événement. Mais je suis curieuse de savoir, toi, tu sais, quand t'annonces ça, que tu te rends vraiment compte de ce qui se passe ou.
Je sais pas si je m'en rends vraiment compte, là. Moi, j'ai vraiment une. Dans le fond, de la manière que je réagis aux mauvaises nouvelles, c'est que j'ai comme une espèce de carapace. Je fais juste écouter. Je fais juste c'est comme encaisser toutes les nouvelles. Puis après ça, je réagis plus tard. T'sais. Mais j'ai une espèce d'habitude de toujours comme une fois que je reçois une nouvelle, ben toutes les informations que j'ai pas, je fais juste comme toujours anticiper que ce qui va arriver va être pire, ce qui va arriver va être pire. Donc en anticipant toujours le pire, ben. On finit par toujours comprendre un peu qu'est-ce qui va arriver, puis ça a été très difficile, mais surtout le plus tard, là, je pense qu'au moment où c'est ce qui a été difficile aussi, c'est j'ai l'impression là quand je reçois une mauvaise nouvelle, je suis capable de l'encaisser, mais c'est au moment où il faut que je l'apprenne aux autres, il faut que j'appelle ma famille, c'est le moment qui est le plus difficile pour moi, parce qu'après celui-là, tu le réalises vraiment quand t'entends la personne là au bout du fil ou la personne que tu vois. Quand tu vois la personne pleurer, d'un coup, tu réalises « Ah, OK, c'est vrai. OK, ouais, c'est vrai que ça, moi, ça arrive. »
Ouais, puis ça m'a... Ben, en fait, tu parles de ta famille, puis je me souviens dans une de tes chansons, justement, je sais pas, ça m'a beaucoup interpellée. Ben, je pense pas que tu fais allusion à une tribu, là, mais tu sais, c'est comme « Take one for the team », là, tu sais, c'était comme...
Ouais. Dans le fond, c'est que...
Ça m'a beaucoup parlé, du moins, je t'avoue, là, tu sais, j'ai... Des fois, faudrait...
En fait, je dis l'équipe. En fond, je dis la famille, c'est mon team, je suis prêt à survivre pour l'équipe.
Exact.
Je pense que c'est ça la
phrase. Ouais, c'est exactement ça. Exactement ça. Tu sais, puis ouais. On dirait que. Puis je te comprends tellement parce que c'est ça que. Tu me diras, c'est la même chose pour toi, mais c'est ça que je trouvais quasiment plus difficile, c'était de voir, tu sais, les gens autour, tu sais, la peine qu'eux y avaient.
Exact. Exact. La famille, c'est que le plus important. Puis la famille, ça peut être nos amis aussi, là, mais les personnes qui sont alentour de nous. C'est eux autres qui, en tout cas, nous, on est dans le problème. Nous, on reçoit ça, on est dans le problème, mais eux autres sont à l'extérieur, sont impuissants, puis tout ce qu'ils veulent, c'est nous aider. Puis moi, de mon côté, mon entourage, ma famille m'a vraiment aidé, puis ont vraiment tout fait pour que ça se passe le mieux possible. Puis
est-ce qu'il y a quelque chose qui a changé par rapport justement à tes relations avec tes proches, avec tes amis? Je sais pas si tu as tout. Non, j'avais cru comprendre que tu avais une copine à l'époque. Est-ce qu'il y a quelque chose qui a changé ou tu sais?
Ben, c'est sûr qu'avec ma copine, ça a tout changé. Là. Dans le sens que, moi, d'un coup, tu sais, moi, ma copine, ça faisait, mettons, 1 an et demi que j'étais avec elle à ce moment-là. Puis, aujourd'hui, ça fait 4 ans qu'on est ensemble. Fait que je l'ai plus connue malade qu'en santé. Ma copine s'est plus souvent occupée de moi que je me suis. Que j'étais dans une relation d'égal à égal avec elle parce que j'étais énormément hospitalisé. Donc, elle, la maladie l'a touché autant elle que moi, tu sais, parce que au quotidien, elle a vécu ça. Donc, c'est vrai, c'est sûr que ça a vraiment tout changé. Ma relation avec mes parents, ben, moi, je voyais pas mes parents tous les jours. Là. Moi, je voyais mes parents une fois de temps en temps. La seconde que j'ai eu mon diagnostic, ils venaient me voir tous les jours à l'hôpital. J'étais chanceux. Que moi, j'ai été malade en temps de pandémie. Là. Mais j'ai été chanceux qu'à ma première hospitalisation, je sais pas pourquoi, il y avait beaucoup d'hôpitaux qui avaient des restrictions vraiment strictes par rapport aux visiteurs. Moi, j'avais le droit à 4 visiteurs par jour différents. Puis 4, c'est exactement le nombre de mon frère, ma copine, mes parents. Fait qu'à tous les jours, ils venaient. C'était sûr que ça a été difficile le premier mois, mais j'avais de la compagnie, puis moi, mes journées se passaient vite parce que passaient chacun leur tour, puis ouais, c'est ça, mais je pense que ça a renforcé nos relations. Elle a aussi fait sortir le côté émotif ou le côté plus sensible qu'on a en nous.
Plus vulnérable.
Plus vulnérable, de se dire, hey, on s'aime, on reste ensemble, puis on est une équipe, puis on l'a vraiment fait en équipe. Puis même s'il y a des, tu sais, dans le sens que, exemple, mes parents, ils sont plus ensemble, ben, ils sont plus ensemble, ben, je l'ai pas ressenti au moment où je suis tombé malade. Puis, on était une équipe, puis la même chose quand mes amis sont venus en jeu aussi. Tout le monde voulait juste faire partie de l'équipe. Puis à ce moment-là, dès qu'on demandait quelque chose ou dès qu'on disait « Hey, ça serait bien pour l'équipe qu'on fasse ça », ben tout le monde l'a fait. Au moment où on a demandé au médecin « Qu'est-ce qui pourrait aider ?» Parce que tout le monde demande comment il pourrait aider. Et les médecins ont dit « Ben, c'est simple. Vous allez recevoir souvent des transfusions sanguines. Ben, dites au monde d'aller donner du sang. » Ben, on a organisé un événement la mère à ma copine a organisé un événement en mon honneur à Emma Québec, à Laval. Wow. Il y a peut-être 60, 45, 50 personnes qui sont allées donner du temps en mon nom. Fait que ça, c'est un autre exemple de comment le monde se sont unis pour la bonne cause. Puis un plus tard, ça vient plus tard dans mon histoire, là, mais au moment où j'ai eu besoin de dons financiers parce que j'avais à avoir des médicaments qui n'étaient pas couverts par l'assurance, par la RAMQ, ni par ma compagnie d'assurance, ben tout le monde s'est mobilisé pour donner un peu de sous, puis partager, puis s'assurer qu'en équipe, on soit capable d'amasser l'argent qu'on avait besoin pour mes médicaments.
Ah, c'est fou, ça.
Ça, c'est ouais, cool, puis je sais pas si on va en parler plus tard de...
Mais si tu as envie d'en parler maintenant, on peut en parler maintenant.
On peut en parler maintenant, dans le sens que ce qui est arrivé, c'est que ça, je pense que ça a été le pire moment, là. C'est le moment de ma récidive en janvier. Je pense que c'est janvier ou février 2021. Ça a été le pire moment parce que à ce moment-là, le médecin, ce qu'il me disait, c'est terminé. Il y a peut-être une chance, mais on ne sait pas trop qu'est-ce que ça peut être. Tu sais, dans le sens que c'était pas mal sûr que c'était terminé. Il allait se rencontrer tous les médecins ensemble, savoir si on donnait une dernière chance à un traitement ou quelque chose. Puis là, ils sont arrivés avec l'idée, ben on a un traitement, mais il n'est pas couvert par les assurances. Puis c'est à ce moment-là que, dans le fond, moi, j'ai dit, ben combien ça coûte? Parce que...
Prêt à tout, là.
C'est pas quelques milliers de dollars qui vont faire que je vais mourir, là, dans le sens
non,
que...
Non, c'est ça, exact. Mm-hmm.
Moi, j'étais prêt à tout, puis après ça, ben... Après ça, on s'est réunis ensemble de dire, OK, est-ce que la famille est capable de payer tout ce que ça va coûter? En fait, c'était 8 000 par mois.
C'était combien de mois, tu disais?
C'était 8 000 par mois, puis le but, c'était de se rendre jusqu'à une deuxième greffe, qui était minimum 6 mois après.
Je comprends.
Dans le fond, ce qu'on avait comme objectif, c'était 8 000 pour 6 mois, donc 48 000. Mm. Et on a atteint, dans le fond, 71 000, puis ça a été vraiment rapide. Moi, j'étais à l'hôpital au moment de la collecte de fonds. Ça a été un des plus beaux moments là, dans le sens de ressentir tout l'amour qui arrive vers moi. Tout le monde, soit tu sais, du monde qui avait moins d'argent, mais ils partageaient, puis ils demandaient à du monde de donner. Tu sais, il y a eu 3 000 partages de la page GoFundMe. Il y a eu comme je pense que c'était, je me rappelle plus le nombre de dons là, mais c'était Il y avait des dons de 5 $ à 1 000 $, là. Il y avait du monde qui voyait ça passer, qui ne connaissait pas du tout, qui disait, ben, je vais donner un 5 $, je vais donner un 10 $, je vais donner un 20 $. Puis ça l'a aidé parce que, en accumulant tout ça, ben, on a eu 71 000.
Ouais, c'est incroyable, quand même. Fait que de ce que je comprends, en gros, dans ton expérience, ça a vraiment eu un effet rassembleur, tu sais, au niveau de tes proches, de ta conjointe, ça vous a comme vraiment rapproché, là.
Ça nous a vraiment rapprochés, effectivement. C'est juste que, en termes de relations, je pense qu'à un certain moment, si moi, je suis extrêmement malade, ben, on n'a plus vraiment de relation d'égal à égal, mais plus une relation de quelqu'un s'occupe de moi. Donc, ça a un peu changé les relations dans ce côté-là. Ça, c'est la partie négative, là, de voir les relations. Mais en gros, le côté positif, c'est que ça nous a vraiment rassemblés. Puis ça a vraiment rassemblés.
Peux-tu revenir sur... parlait des relations qui se sont un peu...
Non, ben ce que je veux dire, c'est que dans une relation d'amitié, exemple, on est toujours d'égal à égal. Il n'y a pas personne qui va prendre en pitié l'autre personne. Dans une relation amoureuse, c'est la même chose. Normalement, dans une relation amoureuse de personnes de 28 ans, 29 ans, il n'y en a pas un qui s'occupe de l'autre. Il n'y en a pas un qui va aider l'autre à aller aux toilettes. Mais ça, ça a le sens que ça peut arriver mais moi, c'était pas le cas de mes relations. Dans ma relation à moi, j'allais aux toilettes moi-même, prenais ma douche moi-même. C'était pas ma blonde qui me faisait prendre ma douche à 29 ans. Mais c'est l'est devenu. C'est devenu moi que les personnes voulaient m'aider moi. Moi, je les aidais pas, ces personnes-là. C'était moi qui était qui avait des problèmes. C'était moi qui était, en besoin, qui avait besoin d'aide. C'est moi qui se faisais aider. Donc, après ça, le but, c'est de se sortir de là pour redonner. T'sais.
Puis comment tu vivais avec... je te pose la question parce que moi, c'est des réflexions que j'ai eues aussi dans mon parcours, mais comment tu vivais avec ce, entre parenthèses, là, vraiment, tu sais, ce surplus... T'sais, tu vivais-tu comme un surplus d'attention? Tu trouvais-tu ça comme un peu étouffant? Je sais pas comment le verbaliser,
Moi, je suis quelqu'un qui aime beaucoup l'attention.
Mais est-ce que tu acceptes? J'adore.
Non, mais c'est un de mes défauts.
J'adore.
Un de mes défauts, c'est que j'aime beaucoup l'attention. Puis je me rappelle, mon frère, il m'avait dit ça en blague. Quand j'ai eu 29 ans, moi, dans le fond, ça faisait 10 jours que j'avais eu mon diagnostic. Fait qu'à mes 29 ans, j'ai reçu, encore une fois, une dose d'amour exceptionnelle. Puis mon frère m'avait fait faire un livre où il y avait une centaine de personnes qui avaient mis un message, puis il y avait une photo d'eux. Fait que moi, j'ai un livre chez moi que je lis tout le monde qui me souhaite bonne fête et surtout qui me souhaite bonne chance dans toutes dans tout ce qui s'en vient dans les traitements. À ce moment-là, j'étais dans les débuts de mes traitements de chimio. Puis mon frère m'avait dit en blague, hey, tu dois trouver ça difficile d'avoir autant d'attention puis autant d'amour. Toi qui aimes tellement pas ça, mais moi, c'est vraiment pas comme, dans le sens que ce que je trouvais difficile, c'était les traitements. Ce que je trouvais difficile, c'était la perte de mon autonomie. Mais de recevoir des messages d'encouragement, de recevoir de l'amour et de recevoir de l'attention, d'être la personne importante, pourquoi pas ça difficile? Ça allait.
Ouais. Je comprends. Okay, je comprends ça, ce côté-là. Ouais. OK, mais c'est excellent. C'est super. J'adore. Je comprends bien ce côté-là, mais tu sais, quand tu fais allusion justement au fait que ta blonde devait, mettons, te laver, tu sais, devait s'occuper de toi d'une façon qu'on n'a peut-être pas l'habitude à 30 ans, est-ce que ça, tu sais, tu vivais bien? Ça se peut, là, 100%, là, que tu vivais bien avec ça, puis tu te disais, gars, c'est passager, puis.
Non, c'est ça. Ça, je vivais pas bien avec ça.
OK.
Mais c'est ça. Ben, tu sais, moi, j'ai la chance, là, c'est pas tout le monde qui a cette chance-là, mais moi, j'ai la chance d'avoir littéralement la meilleure blonde qui aurait pu vivre cette situation-là. C'est-à-dire que dans la situation où j'étais, j'ai la meilleure blonde, cool, mais dans la situation où j'étais, de la manière qu'elle a réagi, puis de la manière qu'elle a fait face à ce qui s'en venait, c'était la meilleure personne. C'était la meilleure personne. Puis, pour répondre à ta question, je trouvais ça difficile que ce soit toujours moi qui reçois. C'est comme à un certain moment donné dans un couple, ça peut pas être la même personne qui va faire toutes les tâches, qui va faire à souper, puis qui va aller travailler pendant que l'autre est couché dans son lit. Mais moi, c'est ça.
Comprends.
C'est ça ma vie. C'est moi qui est couché dans mon lit, à l'hôpital ou chez moi, pendant que ma blonde travaille, pendant que ma blonde fait la vaisselle, pendant que ma blonde fait la balayeuse, pendant que ma blonde fait le souper. C'est ça. Puis après ça, moi, ce que j'espérais des autres personnes de l'entourage un peu plus loin, c'est de dire, c'est pas moi que je veux que vous aidiez, c'est ma blonde, parce que c'est elle qui fait tout pour moi. Puis c'est ça qu'ils ont fait. C'est ça que les amis à ma blonde ont fait, c'est que la famille à ma blonde ont fait, c'est ça que ma famille a fait.
Il pourrait avoir tellement, je pense, un autre podcast sur justement l'accompagnement, tu sais, ta blonde après quasiment y participer avec toi, là, tu sais, comment bien accompagner.
Ma blonde pourrait faire un podcast complet.
Ben, c'est clair, puis il n'y a pas de... Tu sais, moi, des fois, ça me faisait capoter, tu sais, je voyais, à l'époque, j'avais un copain, tu sais, puis ou ma famille, tu sais, des fois, j'avais l'impression que les besoins que j'avais n'étaient pas nécessairement comblés, rencontrés, tu sais, mais... Il n'y a pas de manuel sur comment... Oui, j'imagine là, qu'il y a dû avoir des livres. T'sais, bon, il y a dû des gens qui se sont penchés sur... Il y a des études qui ont peut-être été faites, mais ça reste que c'est tellement personnel à chaque personne, tu sais. Mais en tout cas, je suis vraiment contente pour toi que tu aies eu un accompagnement A1, là, de...
Ce qui est difficile, c'est que la personne a subi aussi un... Elle a reçu autant que moi le diagnostic. Elle, ses projets ont été autant... reportés que les miens. Tu sais, au moment où moi, je me fais dire que je pourrais pas avoir d'enfant, elle se le fait dire aussi. Là.
Est-ce que c'est ça qui s'est passé pour vrai, ça?
Ben, dans le sens que... moi, dans le fond, on m'a dit qu'au moment où que je commençais la chimio, j'allais devenir stérile à 95%, mais au moment où j'ai fait la radiothérapie, là, ils ont dit 100%. Ils ont dit... Sauf que j'ai eu le temps de congeler des spermes avant, donc peut-être que je vais pouvoir avoir des enfants de cette façon-là, puis je l'espère, puis probablement que ça va avoir lieu. Mais en fait, c'était plus ce que je voulais dire, c'est si je m'en vais pour 2 ans et demi de traitement à toujours être à l'hôpital, ben c'est sûr que ça repousse toutes les projets. Nous, on était rendus là, on était rendus à avoir des enfants, on était rendus à se marier, je sais pas, mais là, on va se marier. Dans le sens que je sais pas si on était rendu là, mais là, on l'est rendu là. Mais, ouais, c'est ça. Fait que, mais ce que je veux dire, c'est que notre vie est ensemble. Donc, à partir du moment où que moi, faut que je fasse des deuils sur mes projets, elle, faut qu'elle fasse des deuils sur ses projets aussi.
Je comprends.
Puis, pendant que les autres alentour de nous ont des enfants, se marient, ont des promotions au travail, nous, on fait juste vivre dans la maladie. Ma conjointe était en arrêt de travail aussi au début, pendant un certain nombre de temps, parce que moi, j'étais vraiment toujours hospitalisé. J'ai été hospitalisé des mois complets ou des 2 mois de suite. J'ai eu des vraiment longues hospitalisations où j'avais le droit à un seul visiteur. Ben c'était ma blonde qui venait, puis elle pouvait pas travailler en même temps. Là.
Ouais, je comprends.
Mais pour répondre à la question, non, effectivement, il n'y a pas de guide sur comment aider quelqu'un. Puis, c'est pas fait pour tout le monde. Moi, personnellement, si à 28 ans, j'avais eu une conjointe dans cette situation-là, je sais pas comment j'aurais fait parce que j'ai pas la main. C'est pas moi qui est le meilleur pour s'occuper des gens. Mais, j'espère que j'imagine que j'aurais été capable, là. Mais ma blonde, elle a ça en elle, l'espèce de capacité de se mettre en deuxième priorité puis de s'occuper de quelqu'un. Ou s'occuper de quelqu'un d'important qui est moi, en l'occurrence.
Ouais, je comprends. Là, t'es en rémission, puis je suis curieuse de savoir justement là, est-ce que les rôles sont un peu redevenus comme ils étaient avant? Est-ce qu'il y a comme un équilibre là, qui s'installe tranquillement?
Il y a un équilibre qui s'installe, mais c'est sûr que même quand j'arrive en rémission, moi, souvent, c'est des longs repos, des longues siestes. Une greffe de moelle osseuse, ça magane une personne. Mais moi, j'en ai eu deux. Donc, c'est vraiment beaucoup de sommeil dans ma journée, c'est vraiment pas beaucoup d'énergie. Donc, ça commence en ce moment à reprendre le puis tu sais, en ce moment, je travaille pas. Fait que c'est sûr que je peux en faire un peu plus à la maison. Je peux m'impliquer beaucoup plus que quand j'étais malade. Je suis encore malade, là, mais je peux m'impliquer beaucoup plus. Mais c'est pas encore le retour du balancier. Puis parce que si ça devait être le retour du balancier, il faudrait que j'en fasse beaucoup plus. Il faudrait que je m'occupe de mes proches, puis je m'occupe de ma blonde autant qu'ils se sont occupés de moi. Puis ça pourrait jamais avoir lieu. À moins qu'ils tombent malades. Bon.
On souhaite pas, non, à personne. Puis je suis curieuse de savoir, en parlant de ton album Patient, ben, ton mini-album, pour toi, ça a été, j'imagine, une façon de... Peut-être pas un échappatoire, mais une façon de t'exprimer, une façon d'exprimer tes émotions. Peux-tu nous parler un petit peu de l'idée derrière? Oui, je sais que tu faisais du rap déjà, puis c'était quelque chose que t'aimais, là, le rap québécois. Ouais.
Exact. Mais peux-tu nous parler un peu de ce projet-là? J'en faisais pas vraiment.
OK.
C'est-à-dire que j'avais comme toujours cette arrière-pensée-là de « j'adore ça », puis j'en faisais dans le sens que j'suis toujours le... celui dans une soirée qui dit « Hey, tout le monde, écoutez ça », puis finalement, c'est pas bon, là. Sauf que j'ai jamais vraiment été celui qui s'appliquait à se dire « Je vais aller m'asseoir, je vais écrire quelque chose de pertinent, je vais travailler avec un beatmaker. » Tu sais, j'avais pas été cette personne-là. Puis au moment où je suis tombé malade, il y avait la question à se poser de « Qu'est-ce que j'ai envie de faire maintenant avant qu'il soit trop tard? » Puis ça vient aussi avec la manière que tu le disais, c'est comment je peux exprimer tout ce qui m'arrive Il y a beaucoup de monde, je pense, qui écrivent un journal ou qui écrivent comment ils se sentent ou qui en parlent simplement toute la journée à leurs amis qui servent de psychologue, là. Je pense qu'il y a différentes manières d'exprimer la manière qu'on se ressent. Puis à travers l'art, si on peut appeler ça de l'art, moi j'appelle ça de l'art. Là,
mais c'est clairement de l'art. Là,
à travers l'écriture ou à travers l'art, je pense que les personnes qui sont artistes dans la vie, c'est les personnes qui sont plus capables de sentir qu'est-ce qui se passe alentour d'eux, puis c'est les personnes qui sont les plus proches de leurs émotions. Peut-être que je l'étais pas un artiste, puis j'étais pas cette personne-là proche de ses émotions, puis tout d'un coup, m'est arrivé des trucs que mes émotions, j'avais envie de les sortir, j'avais envie de sortir qu'est-ce qui se passait, qu'est-ce qui m'arrivait, mais aussi j'avais quelque chose à dire que les autres connaissent pas, j'avais une histoire à raconter, j'ai pas nécessairement la plume de le raconter dans un récit, dans un roman, tu sais, c'est pas ça qui m'intéresse. Moi, ce qui m'intéresse, moi, ce que j'écoute, c'est du rap québécois, c'est ça que j'aime, puis j'avais envie d'en faire. Puis d'en faire, ça veut pouvoir dire, juste, ça peut vouloir dire, je vais le faire, puis il y a uniquement moi qui va l'écouter, puis je vais être fier de moi, mais ça peut aussi vouloir dire, je vais le partager à mes amis, je vais le partager sur Facebook, puis je vais le mettre sur les plateformes. Il y a différentes Tu sais, je pense qu'il y a différents paliers d'être fier de ce qu'on fait. Puis je suis tombé assez fier de ce que je faisais pour vouloir le partager aux autres sans nécessairement en avoir fait une, tu sais, sans nécessairement avoir pensé que j'allais faire ça dans la vie. Puis c'était vraiment juste, j'ai besoin de sortir quelque chose. Puis au début, c'était pas je vais sortir un mini-album. Au début, c'était je vais écrire quelques lignes, ça va rimer, je vais trouver un beat. Puis je vais faire quelque chose. Puis dans le fond, ça a commencé comme ça. Moi, ça a commencé sur Facebook. Je me suis filmé sur un instrumental de moi qui est en train de rapper. Puis tout le monde m'avait dit, c'est vraiment mauvais. Ça aurait été la dernière fois que je l'aurais remonté. Non, mais c'est ça la réalité.
Oui, je comprends. Mais au final, c'était vraiment monde, bien. Là.
Étant donné que mes proches, mes amis, mon entourage m'encourageaient là-dedans, ben finalement, j'ai décidé de continuer, j'ai décidé de faire d'autres chansons, j'ai décidé de faire un clip et j'ai décidé d'en faire un mini-album puis de le sortir.
Ah non, j'espère bien qu'en dessous de ce balado-là, aujourd'hui, là, on pourra peut-être mettre le lien vers tes chansons. Là. Pour ma part, ça a été... je sais pas, ça fait 2 ans, là, bientôt 3 ans que je suis impliquée avec la société Leucémie Lymphome. Là, fait qu'on entend, on en entend des témoignages, même au travers de ça, pour ma part, tu sais, des fois, j'essayais de comprendre un peu comment je pouvais me sentir. Puis, je t'avoue que là, ça fait quelques jours, peut-être 2-3 jours, j'écoute tes chansons. Puis, tu réussis à mettre exactement les mots, tu sais, avec tes métaphores, avec sur comment moi je me sentais. Fait que je me suis dit, c'est clair à 100%. Pas juste des gens qui ont le cancer du sang. Là, oui, c'est sûr, là, c'est la société, c'est ça. Mais je suis persuadée que des gens qui souffrent de n'importe quel type de cancer, il se rejoint dans ce que tu chantes, dans ce que tu véhicules comme message. Là. Sérieux, là, je sais pas si c'était ça l'effet, là, mais je suis convaincue qu'il va y avoir des gens qui vont écouter ça tout comme moi, puis qui vont vraiment. J'exagère pas quand j'ai une révélation, là, on en reparlera, puis on a le temps, là, mais vraiment, moi j'ai toujours eu le syndrome un peu de l'imposteur, tu sais, même dans la maladie. Moi j'ai eu un parcours de A1 quasiment, là, j'ai bien répondu au traitement, tout a bien été. Mais j'ai réalisé au travers de tes chansons que ben je me suis quand même sentie comme toi. Tu sais, j'ai quand même vécu des émotions que t'as ressenties. J'ai quand même été mis face à la mort. Tu sais, comme au final, on a toutes vécu quelque chose de similaire. Tu sais, en tout cas, bref,
ouais, ben,
je te lève mon chapeau, Charles.
Ben, merci,
c'est fantastique.
Premièrement. Puis, dans le fond, j'avais déjà eu ce commentaire-là de personnes qui étaient touchées par différents cancers. Là, moi, dans le fond, j'étais en communication avec quelques personnes qui étaient dans la même situation que moi ou qui étaient hospitalisées à la même place. Ça a donné qu'à travers mon parcours, des fois, j'ai partagé des chambres avec des personnes. Puis moi, je parle tout le temps à tout le monde. Donc, j'ai beaucoup parlé à mes co-chambreurs au moment où j'étais pas trop immunosupprimé et que j'avais pas besoin d'avoir une chambre à moi seul. Donc, j'ai été en contact avec beaucoup de personnes qui étaient dans ma situation. Puis eux autres, en l'écoutant, me disaient un peu ce que tu viens de dire, c'est-à-dire qu'ils se sont reconnus, puis c'était je ne sais pas si c'était ça l'intention derrière c'était de mettre d'exprimer comment je m'étais senti ou comment. Puis dans le fond, dans différentes chansons, on peut voir différentes émotions que j'ai vécues. Il va y avoir des chansons qui sont vraiment plus négatives, qui étaient des journées où j'avais littéralement juste le goût d'abandonner, alors qu'il y a d'autres chansons que ça allait beaucoup mieux. Puis j'ai vraiment voulu le diviser comme ça. Puis souvent, j'écrivais à l'hôpital parce que j'ai passé beaucoup de temps hospitalisé. Puis j'avais envie d'écrire, j'avais envie de montrer ou j'avais envie d'expliquer comment je me sentais à ce moment-là. Et si je venais d'avoir une mauvaise nouvelle, c'est sûr que la chanson qui va suivre va être plus difficile. Alors que si je me sens juste bien, puis si je me sens juste bien entouré par ma famille, ben peut-être que ma chanson va être un peu plus joyeuse puis un peu plus positive.
Et puis je pense que c'est aussi ça, hein, le parcours, je veux dire, que ton, comment dire, que tes traitements durent 6 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans, tu sais, il y a des phases qui sont plus positives, d'autres plus négatives. Tu sais, vraiment, je trouvais que c'était une histoire, tu sais, c'était ton histoire que tu racontais au travers de tes chansons, en toute transparence.
C'est comme ça que j'ai voulu le structurer un peu. Une fois que j'avais quelques chansons, je me suis dit, bon, ben, je pense qu'on a différents sujets dans un différent ordre, puis quelqu'un qui écoute vraiment le EP ou le mini-album d'un bord à l'autre va voir la suite des émotions, la suite des mots dans lesquels j'ai été au moment où je le faisais. C'est un peu dommage parce que le mini-album finit avec une chanson quand même triste. Il finit pas bien. Normalement, quand on fait une histoire, on est censé bien la finir, mais c'est ça. Ça a juste donné que c'était comme ça que ça se terminait. Mais c'est ça. Ben, j'imagine que si j'ai d'autres chansons à sortir, ben, ça serait plus positif.
Mais là, c'était ma prochaine question, justement. Henri, par exemple, si tu avais à écrire, on va dire, une série de chansons sur ta rémission, moi, je suis curieuse de savoir, tu sais, comment le cancer a eu un impact aussi, tu sais, sur ta vie en ce moment, puis comment tu vis, grosso modo, tu sais, ta rémission. Je sais que c'est une question large, là, fait que prends l'avenue qui est...
Moi, dans le fond, j'ai comme toujours été, ça va être bizarre là à dire, là, mais j'ai toujours été en rémission. Dans le sens que, puis je le dis pas de manière métaphorique ni figurée, là, mais un mois après mon diagnostic, ils m'ont dit, les traitements ont marché, t'es en rémission. Mais on y a tellement de chances que tu vas faire une récidive parce que ta maladie est tellement agressive que on va te faire une greffe. Puis si tu fais une récidive, ça va vraiment pas bien. Fait que, tu sais, j'ai jamais été si positif que ça. C'est pour ça que les chansons, il y en avait là-dedans que j'étais en rémission, la plupart, mais j'avais quand même la crainte de. Ce que je veux dire, c'est que même en rémission, on me disait pas que j'avais des chances de survie super élevées. On me disait, ça va revenir, donc il faut prendre d'autres précautions, qui était la greffe. Pour répondre à l'autre question, qui était, comment je vais adapter différentes chansons dans des nouvelles plus positives ou dans ma nouvelle vie actuelle qui est, ben, ça fait 2 ans que j'ai pas fait de récidive. C'est un peu là où je suis en ce moment. Ça fait 7-8 mois que j'ai fait ma greffe puis j'ai pas fait de récidive, donc tout va bien. Les médecins sont de plus en plus positifs, donc ça va quand même bien. Dans cette optique-là, ben c'est sûr que les prochaines chansons que je vais écrire vont être beaucoup plus peut-être dans la reconnaissance, dans le fait de OK, je suis rendu maintenant sorti de cette histoire-là, qu'est-ce que j'en retire, puis qu'est-ce que j'ai vécu, mais d'un œil extérieur, puis d'un œil de je suis reconnaissant de tout ce que j'aime tout le monde. Fait que c'est sûr que ça serait beaucoup plus positif. Après ça, ben moi, je fais du rap. Donc, dans le rap, il y a un aspect qui est aussi de se vanter, d'être fier de soi, puis de se... Alors, est-ce qu'il y a une partie des paroles ou une partie de ce que je pourrais sortir qui serait... Je suis fier de m'en être sorti, puis je l'ai fait, puis on m'a dit que j'allais mourir, ben j'étais encore là, tu sais, y a-tu ça? Ben, probablement un peu.
J'espère, parce que c'est...
Ce que je remarque, c'est que je vais bien, j'ai moins besoin d'écrire. Donc, peut-être que... Ouais, c'est ça. C'est, j'ai l'impression que c'est quand il m'arrivait quelque chose, je le vivais, puis c'est comme si, au fond de moi, je pensais hey, comment je vais réagir à ça, puis je pensais à des manières de réagir ou des manières de qu'est-ce qui m'arrive, puis je le mettais sur, je l'écrivais, tu sais. Là, je le fais moins, puis je vais peut-être le faire quand il va y avoir d'autres choses qui vont m'arriver, je sais pas.
Ah, mais c'est super intéressant, surtout quand tu parles du l'espèce de sentiment de fierté. Je suis contente de voir que c'est partagé, parce que je t'avoue que moi aussi, c'est un sentiment que j'ai souvent, tu sais, de réaliser que, oh my, tu sais, c'est rare qu'on... Moi, ça m'a fait réaliser, c'est rare qu'on est fier de nous, tu sais. Ouais. Mais je pense que c'est tout un accomplissement, sérieusement.
Et surtout
dans le sens...
que, je sais pas pour tout le monde qui sont affectés par la maladie, mais j'ai l'impression que dans mon cas, au moment où je touchais le fond du baril, tu sais, au moment où on est le plus déprimé ou que c'est le plus difficile, j'ai l'impression qu'on voit rarement, on voit pas à quel moment ça va bien aller. On a l'impression que ça va jamais bien aller, puis on est toujours fiers de nous, puis on est toujours un peu, mais on a l'impression que ça va jamais revenir comme avant, puis ça va jamais... Puis au moment où ça le redevient, qu'on redevient heureux, qu'on redevient optimiste, j'ai l'impression qu'on se rappelle de ces moments-là, puis on se dit « Hey, j'ai passé à travers tellement d'étapes qu'aujourd'hui, j'ai l'impression que je me reconnais même, tu sais, je reconnais même plus les émotions ou les ou ce que j'ai pu vivre 6 mois avant ou même 1 an avant. » Donc, ça fait partie de la fierté de se dire... Puis moi, dans le fond, je prends beaucoup de photos. Quand je me regarde puis que je me reconnais à peine parce que je suis vraiment ravagé par différents traitements, quand je perds mes cheveux, quand je l'ai difficile, quand je perds poids, ben j'ai beaucoup de photos de ça qui fait que je peux regarder après et dire « Oh boy, ah oui, je m'en rappelle. » Je me rappelle à ce moment-là comment j'allais mal, comment j'avais de la misère à manger, comment j'avais... Puis là, je suis un an après, puis je me sens complètement différent, donc j'en suis bien.
Ouais, c'est super inspirant ton histoire, Charles. Puis si t'avais, par exemple, un conseil à donner à un jeune de notre âge qui a exactement le même diagnostic que toi, ça serait quoi? Ça peut être plus qu'un conseil, là. Mais tu sais, si quelqu'un qui a le même diagnostic que toi vient te voir, qu'est-ce que t'aurais tendance à vouloir lui conseiller ou lui dire?
Premièrement, écoute mon album. Non, c'est une blague.
J'adore.
Non.
C'est un bon conseil, très bon conseil, tout le monde.
Si j'avais un conseil à donner, ça serait, ça va être beaucoup plus long que tu peux te l'imaginer. Tout est long quand t'es malade. Il faut tout le temps attendre. Puis mon EP s'appelle Patient, parce que pas juste parce que je suis un patient d'hôpital, mais parce qu'il faut être patient dans la maladie. On a souvent l'impression que on tombe en mode, OK, je commence les traitements, là, amène-les, là, je suis en mode combat. Mais le mode combat, là, c'est pas un sprint, c'est un marathon. Et ça, j'imagine que ça peut dépendre des cancers, ça peut dépendre des cancers du sang. Mais dans mon cas, on me l'avait pas nécessairement vendu comme ça au début, parce que ce qu'on me disait, c'était le cas optimal de si ça va vraiment bien, ça va être ça, ça va être ça. Mais dans la plupart des cas, il y a des hauts et des bas, et il y a surtout beaucoup, beaucoup d'attentes à l'hôpital, beaucoup d'attentes dans les traitements, et beaucoup d'attentes en général. Donc, d'être patient, ça veut aussi vouloir dire trouve quelque chose à faire pendant que tu attends. Si tu es pour être 1 mois à l'hôpital, tu veux passer ton mois à pleurer, ton mois va passer comme 6 mois. Mais si je dis pas de pas pleurer, là, mais ce que je veux dire, c'est il faut s'occuper, puis il faut trouver une manière de passer son temps puis ça revient un peu à ce que je dis, ça revient un peu à ce que j'ai fait, dans le sens que moi, j'avais du temps, j'avais quelque chose à dire, donc je me suis dit, je vais me lancer dans le vide, moi, je vais commencer à 29 ans à faire du rap. Ben, si quelqu'un, lui, ce qu'il a envie de faire, c'est je vais me lancer à faire d'autres choses, je vais me lancer dans un projet, j'ai envie d'acquérir telle aptitude, ben, il n'y a pas beaucoup de trucs qu'on peut faire quand on est immunosupprimé, pas beaucoup, mais il faut apprendre à être patient et apprendre à, il faut apprendre à passer le temps quand on est seul et quand on peut pas voir d'autres personnes. C'est ce que j'aurais à donner comme, comme conseil. Parce que c'est long. C'est très long.
Ouais, on se le cachera pas, effectivement. Mais merci tellement, Charles, aujourd'hui, d'avoir accepté, notre invitation. Puis, donc, t'es super inspirant. Puis, je vous encourage tout le monde à aller écouter ses chansons. C'est fantastique.
C'est Charlie Mortel avec un Y à Charlie. Charlie, comme vous voulez, là, mais c'est un petit jeu de mots. Ça fait comme Charles Immortel. Mon nom, c'est Charles. Charlie Mortel. Ouais, je voulais.
Je peux penser à ça, c'est super.
Ouais, c'est comme un. Dans le fond, c'est cool. Moi, tout le monde m'appelle Charlie ou Charlie. Puis là, dans le fond, je me cherchais un nom de rappeur.
Ah, c'est
puis, ma blonde a eu l'idée de, hey, ben, tu te considères immortel, tu veux être immortel, tu veux que ton histoire, que le monde en parle, tu veux être, donc, Charlie Mortel. Donc, c'est devenu ça, le jeu de mots.
Ah, j'adore le jeu de mots. Mais vous allez probablement avoir le petit lien, là. J'ose espérer qu'on va pouvoir trouver une façon de mettre le lien vers les chansons de Charles.
Mais en fond, sinon, c'est disponible sur toutes les plateformes, sur YouTube, sur Spotify, Apple Music. Donnez-moi votre... Si vous avez aimé ça, vous pouvez m'écrire et me dire ce que vous en avez pensé, ce que vous en avez pensé, parce que j'aime ça recevoir des commentaires. Je suis content de recevoir les tiens.
Et merci infiniment, Charles. Merci beaucoup.
Ah ben, ça fait plaisir.
Si vous avez des questions relativement à ce balado ou à propos du sujet qu'on a abordé aujourd'hui, ou encore si vous avez besoin du support ou de ressources pour vous aider dans cette épreuve, on vous invite à communiquer avec le responsable des services à la communauté de votre région. Pour plus d'informations, visitez le site cancerdusang.ca. Si vous avez aimé notre balado, inscrivez-vous et laissez-nous une évaluation. Vous pouvez nous écouter sur vos plateformes de balado préférées comme Spotify, Anchor ou Apple. Si vous avez des suggestions de balado, on aimerait vous lire. Laissez-nous vos suggestions ou commentaires au info@commercialcancerdusang.ca. Ce balado a été rendu possible grâce au soutien de la Fondation CIBC. Je vous dis à bientôt et d'ici là, prenez soin de vous.